Cette émission vous est offerte par la bière Wachtainer, aussi nommée Sikavi, une bière internationale d'origine allemande depuis 1753, distribuée au Togo par la SNB. Wachtainer, la vie dorée.
Je suis très heureux de vous retrouver sur La Nouvelle Génération. Bonjour, merci de nous choisir dans cette émission Club de la Presse. Vous savez que le rendez-vous, c'est de lundi à vendredi à partir de 11h sur votre radio. Nous y sommes. Merci pour votre fidélité sans cesse renouvelée. Le pays gagne à célébrer ce 18 septembre 2025 à Glidikota, la 362e édition de la prise de la pierre sacrée pour cette nouvelle année qui démarre selon les traditions et coutumes. La pierre envoie un message de précaution et d'espoir. La pierre de couleur blanc sale annonce globalement une année de prospérité sans toutefois perdre alors de vue des intérêts préalables qui la conditionnent. En clair, pour cette nouvelle année, la pierre sacrée recommande de ne pas se prévaloir de ce qui ne t'appartient pas, ce qui n'est pas à toi ne t'appartient pas. Et peut-on écouter, bien sûr, ou peut-on lire? Aussi, recommande telle d'arrêter de prendre les femmes d'autrui, sinon le malheur vous attend, tout en prônant solidarité, amitié, entente et fraternité entre les fils et filles. Guin, la pierre sacrée assure par ailleurs que les malheurs et troubles qui arrivent ailleurs n'arriveront pas dans notre pays, le Togo. De même, elle martèle fermement que cessent les avortements et surtout que ceux qui maudissent et font alors du mal à leurs prochains arrêtent de chercher du mal à autrui. Après la prise de la pierre sacrée, convient-il alors de le rappeler? Les cérémonies et rites initiatiques se poursuivent jusqu'au 25 décembre 2025. Le sujet nous intéresse au Club de la Presse et nous allons justement l'aborder dans cette émission Club de la Presse. Nous parlerons d'autres sujets liés à l'actualité tels qu'évoqués par des journaux parus aujourd'hui dans cette émission Club de la Presse de ce vendredi 19 septembre 2025. Bienvenue au Club. Pour la coordination de l'émission de ce jour, Michel Kokou, Vito Gbetomega est à la mise en onde. Jérôme Akouta assure la mise en ligne. Je suis Pascal Losso au micro. Nos salutations fraternelles à vous tous qui nous suivez partout au Togo grâce à nos radios partenaires. Radio Lumière à Anéro, Radio La Paix à Takpamé, Centrale FM à Sokodé, Sky FM à Badou, Radio Daoul, nous sommes à Bassa, Sama FM à Baga près de Niamtougou et puis Radio Courtoisie à Dapaon. Vous savez que vous avez ce privilège de nous suivre aussi partout dans le monde grâce à nos différentes plateformes digitales, notamment notre chaîne YouTube, aussi notre page Facebook, sans oublier notre site internet www.canalfm.com et aussi nos radios partenaires en ligne, Ibn Radio et Radio Les Bénins. Mon Club de la Presse, vous le savez, c'est le décryptage, l'analyse, le débat sur l'actualité de notre pays, le Togo, du continent africain aussi du monde entier. Et c'est avec mes confrères journalistes en studio avec moi aussi des analyses, bien sûr, dans cette émission Club de la Presse. C'est bien Gabin Adjaho. Gabin, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour à toutes les auditrices et à tous les auditeurs de Canal FM qui nous écoutent et qui nous suivent, qui nous prodiguent aussi des conseils parfois, même si le débat contradictoire fait parfois que bon, certains nous prennent comme des défenseurs de celui-ci ou bien de cela, mais je veux leur dire que c'est l'expression quand même de la démocratie, tout le monde est libre de penser et de dire ce qu'il veut, mais dans le respect quand même de la loi et de l'autre aussi. Donc je leur souhaite d'ores et déjà un très bon week-end et que Dieu protège véritablement les Togolais et surtout le Togo.
Gabin, rassurez-vous, c'est ce que nous prenons toujours au Club de la Presse, c'est-à-dire nous donnons la parole à tout le monde, mais que ça soit toujours alors dans le respect de l'autre, le respect mutuel, que ça soit emprunt alors de la courtoisie, voilà. Nos propos bien sûr. Et là, bien sûr, nos propos ici ne constituent pas alors des paroles d'évangile.
Ah oui.
Là, il faut quand même qu'on le précise. Et c'est l'analyse, c'est-à-dire le point de vue des uns et des autres hein, qu'on expose ici au Club de la Presse. C'est pour cela même d'ailleurs que le principe de l'émission, c'est que à partir de midi, nous donnons la parole à nos auditeurs parce que nous savons qu'eux aussi, ils ont leur point de vue à placer dans ce débat que nous animons tous ensemble. N'est-ce pas, Samy Urosama? Bonjour. J'allais vous appeler Koura. Samy, bonjour.
Peut-être que je suis le prochain ambassadeur du Togo auprès de la République française.
Voilà, on ne sait jamais.
Bonjour Pascal, bonjour à tous ceux qui nous suivent un peu partout à Lomé, dans les localités environnantes. J'ai eu une pensée particulière ce matin pour des millions de parents dont les enfants ont repris l'école cette semaine. Vous savez, il y a de cela 3 ans, je publiais une tribune intitulée « Une école de qualité sécurisée pour les enfants, responsabilité partagée entre parents, gouvernement et enseignants ». 3 ans plus tard, cette réflexion est toujours d'actualité parce que parmi tous les facteurs qui influencent l'éducation de l'enfant, de sa naissance à l'âge adulte, vous avez la famille. Et l'école joue un rôle important. Et quoi de plus meilleur? Parce qu'en fait, quand vous prenez un peu tous les instruments juridiques au plan national et international, et toutes les mesures qui ont été adoptées par le gouvernement togolais, vous verrez qu'en fait, à l'instar de la Charte africaine des droits du bien-être de l'enfant, qui dispose que les parents ou toute personne chargée de l'enfant sont responsables au premier chef de son éducation et de son épanouissement. Ça veut dire qu'on montre en fait qu'au-delà de tout ce qu'on peut dire, les parents demeurent les premiers responsables donc de l'éducation des enfants. Donc courage à ces millions de parents qui ont consacré beaucoup de choses pour permettre aux enfants d'entamer dans de bonnes conditions cette nouvelle rentrée scolaire. Et c'est véritablement grâce à leur contribution que le gouvernement et les autres acteurs arrivent donc à faire face aux nombreux défis et perspectives donc auxquels font face ou fait face donc l'école togolaise.
Samy Urosama, merci. Je comprends pourquoi vous êtes intéressé aux enfants, parce que c'est que vous êtes défenseur des droits humains, notamment des enfants, et aussi sans oublier que vous êtes analyste et nous vous recevons dans cette émission justement pour vos analyses. Merci d'avoir répondu à notre invitation.
Merci de m'avoir invité, Pascal.
Firmé Tekouagbo, bonjour.
Bonjour Pascal Lussou, merci de m'avoir invité.
Oui, comme le dira l'autre, vous n'avez pas diminué en barbe, hein?
Oui, ça pousse toujours.
C'est l'essentiel.
Ça pousse toujours.
C'est votre identité aussi.
Oui, c'est mon identité. Donc, c'est Firmé Tekouagbo.
Mais est-ce que vous comprenez quand même que c'est dernier temps, vous voyez des jeunes quand même qui préfèrent porter alors de barbe?
Oui, c'est le moment. C'est comme tout le monde, la plupart des hommes aiment se raser la tête. Oh, dans les années 90 ou à la fin du 20e siècle, on avait des cheveux, beaucoup de cheveux crépus sur la tête. Même aujourd'hui, quand on voit de grandes personnalités, au Togo par exemple, tout le monde s'essaie de raser la tête. Moi, je me rase toujours la tête. Mais aussi, on ajoute aussi la barbe. Les jeunes veulent garder leur barbe. Juste, c'est un look, ça devient un look. Ça devient un look. Mais pour moi, ce n'est pas un look, puisque ma barbe, ça sort régulièrement. Donc, vous la rasez régulièrement, vous avez des soucis.
Et justement, ça devient un look tel que vous l'avez dit, mais il semble que c'est ce qui plaît plus aussi aux femmes.
Oui, parce que quand vous caressez des dents. Elle vous caresse dedans, elle vous tire ça. Lorsque vous êtes en pleine intimité, c'est un moment idéal pour les
femmes.
C'est
ce que vous préférez?
Que si on me la caresse, ça me fait vraiment plaisir.
D'accord.
Et aussi lorsque les enfants aussi peuvent vous la tirer des fois, ça me fait plaisir. Mais c'est bien. Les femmes adorent ça. Même si elles vous disent, moi, je n'aime pas, il faut raser ta barbe. Au fond, elles aiment ça.
Ah bon?
Ouais, elles aiment ça.
Comme quoi, c'est parce que la femme dit qu'il y a toujours sa première impression des choses.
Bien évidemment, c'est la femme. C'est que on dit souvent que la femme, c'est l'émotion. Donc, les premières réactions de la femme ne sont pas souvent les vrais. Donc il faut garder quelques secondes pour laisser venir la deuxième réaction. Et c'est la deuxième réaction même qui est la vraie. C'est-à-dire, quelquefois, le nom de la femme signifie simplement le oui.
D'accord. Ok, merci. Je ne sais pas si vous êtes spécialiste des femmes, mais ce qui est sûr, on comprend aussi votre réaction. Alors, nous avons un invité aujourd'hui, puisque nous avons cette campagne médiatique à l'heure du mois de l'amnistie de l'Union africaine 2025. Et justement, nous allons en parler. Nous allons en parler avec Jonas Paka. Jonas, bonjour.
Oui, bonjour. Bonjour. Je voudrais vous dire merci pour l'opportunité et de parler à peu près du mois de l'amnistie décrété par l'Union africaine depuis 2017. Voilà, je crois que l'occasion nous permettait de partager justement les enjeux de ce mois. Et bon, les uns les autres comprendant l'importance et l'urgence qu'on a pour que l'Afrique, comme dit une de ses aspirations, être en paix et en sécurité.
D'accord. Oui, Jonas, je rappelle que vous êtes secrétaire permanent de la Commission nationale de lutte contre les armes légères et de petit calibre, CNLPAL. Et c'est vrai, quand on parle alors de mois de l'amnistie de l'Union africaine, concrètement, qu'est-ce que c'est?
Oui, il faut peut-être un petit rappel historique. En 2013, il y a eu une conférence des chefs d'État et de gouvernement. Lorsqu'ils se sont réunis pour célébrer les 50 ans de l'existence de l'OUI à l'époque, et enfin de l'OUI à l'époque, un constat s'est dégagé, c'est qu'il y avait beaucoup de conflits. Et la présidente de la commission à l'époque, Mme Zuma, a commis une équipe pour essayer de faire, disons, prendre l'impression des Africains sur les préoccupations. Et ce qui est revenu dans les réponses, c'est que les conflits existaient et sont nourris par des armes. En cela, il fallait des mécanismes, disons, opérationnels pour que ces conflits cessent. Et la recommandation phare, il a été mis un projet, en fait, qui fait partie d'ailleurs des 7 projets de l'Union africaine dans l'agenda 2063, c'est faire taire les armes. Et de manière pratique, faire taire les armes, c'est à travers la collecte ou la remise des armes. D'où ce mois qui est décrété à ce que chaque année, tous les pays africains fassent la campagne de ce mois, inviter ceux-là qui détiendraient des armes de manière irrégulière puissent soit les collecter, soit les remettre. La collecte va plus parler des pays qui connaissent les conflits ouverts comme des guerres. Bon, pour notre pays, ce n'est pas le cas, mais nous pensons plus à la remise volontaire parce qu'il y a des compatriotes qui, certainement, peut-être on a un parent qui est décédé, qui avait une arme, on peut venir approcher la commission ou les structures appropriées pour cette remise.
Alors, Jonas, comment sont gérées aujourd'hui les armes que vous saisissez? Et si justement, quand on prend la commission, comment la commission gère ces armes?
Lorsqu'il y a saisi d'armes, en fait, je voudrais rappeler que les saisies sont opérées par les forces de fonds de sécurité dans le cadre de leur mission. Lorsque ces saisies sont faites, nous sommes informés. Et enfin, avec la coopération américaine, nous avons un magasin d'armes, de stock d'armes saisies à l'état-major. Ces armes sont stockées pour un temps et l'autre phase maintenant, c'est la destruction. Pour ceux qui suivent un peu nos activités, il y a 2 ans de cela, j'allais dire 3 ans, puis c'était en 2022, à la faveur justement de ce mois, on a eu à détruire des armes au champ de tir d'Aguanivé et nous avions détruit 1507 armes durant cet événement. Disons, depuis que la commission existe, il y a des moments où, lorsque les stocks saisis sont importants, là, on procède à la destruction.
Alors, aujourd'hui, si nous prenons par un, combien on peut compter, même d'ailleurs, que ces armes qui sont souvent saisies?
Non, c'est difficile de vous donner un chiffre en bonne et due forme parce que, comme je le dis, si c'était un conflit, on a à peu près une idée des rebelles, par exemple, hein, je donne l'exemple, ou des combattants, enfin, on les appelle plutôt les acteurs non étatiques, où on se dit, voilà, ils ont le nombre, en fonction du nombre, on a le nombre aussi d'armes détenues. Mais ici, c'est sur la base des actions menées par et la police et la gendarmerie, mais aussi la douane, parce que quand ils sont aux frontières, il arrive que, voilà, des trafiquants passent par là et puis voilà, on saisit les armes. Certes, le bilan n'est pas encore établi, mais ce que je peux dire, Le bilan que j'avance est celui de 2021-2022, avec les informations que nous avons de la police, de la gendarmerie. Durant cette période, on a eu une cinquantaine d'armes qui ont été saisies.
Mmh. Alors, finalement, quels sont les grands défis auxquels vous êtes confrontés aujourd'hui, Jonas?
Bon, enfin, le défi, il n'est pas seulement togolais. Je crois que le défi est continental parce que c'est une question de sécurité de manière générale. Non seulement la sécurité individuelle, mais elle est aussi collective. Et en ce sens que, tant, comme disait le président du Conseil lors d'une réunion sur la dette à Lomé ici, il disait qu'il n'y a pas de développement sans paix et sécurité. Donc, c'est des défis comme ça qui sont là. Mais l'autre défi qu'on remarque, c'est la réticence des compatriotes ou le manque de collaboration et même de dénonciation pour ceux-là qui, dans nos communautés, qui ont des armes.
Mais est-ce que les gens sont autant sensibilisés pour dénoncer?
Bon, peut-être que vous avez en partie peut-être raison, c'est possible. Que l'État ne fasse pas suffisamment. Je suppose que la Commission ne ferait pas suffisamment en matière de sensibilisation. Mais il y a nos acteurs de la société civile qui se sont saisis de la question, qui travaillent dans les communautés pour inviter ceux-là qui seraient dans des situations illégales à se régulariser. Peut-être que, comme on dit, on ne peut pas danser à s'apprécier. C'est l'œil extérieur qui peut mieux apprécier ce que nous faisons.
D'accord. Mais est-ce que vous pouvez décrire les stratégies actuelles en place, qui sont mises en place justement pour la collecte et la destruction des armes?
Pour ce mois de septembre, il y a deux aspects. Le premier aspect, c'est la régularisation. Bon, je donne un exemple. Bon, je suppose, c'est une supposition, c'est une école, que vous avez une arme et vous l'avez acquis de manière irrégulière. Donc vous allez au niveau, je ne sais pas dans quel quartier où vous êtes à Lomé. Si c'est à Idjiranawe, c'est que vous êtes dans le Golfe. Là, vous allez au niveau de la préfecture du Golfe. Il y a un comité qui est installé à cet effet, qui vous reçoit, qui enregistre votre nom, prénom, et puis il vous remet un récépissé et vous reportez avec votre arme. Ça, c'est la régularisation. Enfin, c'est une mesure de faveur qui est en vue. Le second aspect, c'est la remise, tel que je le dis. Vous êtes détenteur d'une arme, vous considérez que non, elle est encombrante. Ou bien, et c'est un cas qu'on a vécu, il y a un compatriote qui était à Badago, dont le papa était décédé. Il y avait un problème d'héritage. Dans ce bien, il y avait une arme. Qui va hériter? Est-ce que c'est l'aîné? C'est qui? Voilà, la famille a décidé plutôt de nous approcher et elle est venue nous remettre l'arme. Ça peut être un cas comme ça. Et surtout en ce moment-là. Quand vous remettez de manière volontaire, vous n'êtes pas poursuivi. La garantie, c'est que l'Union africaine demande que tous ceux qui remettent cela ne soient poursuivis pour des infractions de détention illégale. Je crois que c'est justement la stratégie. Donc, dans toutes les préfectures, certes, aujourd'hui, la carte administrative de Togo a évolué. Hein, au-delà des préfets, puisque nous traitions avec les préfets, nous avons aujourd'hui les mairies, nous avons les conseils régionaux, nous avons les gouvernorats. Je crois que toutes ces autorités, ou j'allais dire ces institutions, sont à même de recevoir les compatriotes qui voudraient justement se prêter qui pourraient se mettre dans la danse de ce phénomène, ou plutôt de cette campagne décrétée par l'Union africaine.
Alors, parlons un peu de vos besoins spécifiques en matière de renforcement de capacités. Et quels sont les principaux besoins en matière de formation pour le personnel de votre unité concernant la gestion des armes?
Bon, pas spécifiquement le personnel, mais je crois que c'est plutôt à l'ensemble de tous les acteurs qui s'intéressent à la chose. Certes, il y a eu des années, on avait initié des séances de sensibilisation à l'endroit, des hommes de médias. Je crois qu'on verra si en 2026, qu'on peut rédiger cela, ce serait très intéressant. Mais aussi avec les forces de défense et de sécurité, notamment les agents chargés de la gestion des armes, parce que la gestion d'une arme nécessite des compétences, des techniques, mais aussi des locaux où il faut les gérer. Certes, il y a certains partenaires qui nous ont appuyés. L'autre élément aussi, c'est d'aider certaines structures à avoir des magasins d'armes. Et je voudrais cela saluer le partenaire avec le département d'État américain qui, à travers une ONG dénommée The Hello Trust, a permis à ce que certains commissariats de Lomé est ce qu'on appelle les quais sécurisés. Bon, pour certains d'entre vous, peut-être vous avez un ami commissaire, ou bien, bon, si vous avez le flair de vérifier quand vous rentrez dans un bureau de commissaire, pour ceux qui s'y connaissent, il a une idée de là où l'arme se trouve. Le plus souvent, il n'y avait pas d'endroit précis. Mais grâce à justement à cette coopération, on a réussi à doter certains commissariats de caisses sécurisées pour garder les armes.
Alors, c'est vrai que restons toujours dans cette question alors de formation. Et avez-vous des programmes de formation continue ou des partenariats avec d'autres institutions pour renforcer les capacités de votre unité?
Oui, c'est vrai. Nous avons eu un PTA, le plan de travail annuel 2025 qui avait prévu la formation de certains acteurs. Rappelez, il y a eu cette formation qui a été faite à l'endroit des policiers, des eaux et forêts, des douaniers sur le volet. Ce qu'on a en vue, c'est plus les sensibilisations. Dans le cadre même de ce mois d'amnistie, la semaine prochaine, on sera à Dapon, à Karaï, à Soukouré, pour parler de ce phénomène avec les transporteurs. Vous savez, les études font ressortir que le trafic, que ce soit des armes ou tout produit dangereux, passe par le secteur des transports. Soit c'est par avion, soit c'est par voie maritime, soit par le transport en commun. Vous savez, aujourd'hui, il y a plusieurs compagnies privées de transport de personnes qui quittent Lomé pour l'intérieur. C'est d'attirer leur attention pour qu'ils soient regardants au niveau des colis. On peut vous amener un colis pour vous, conducteur, ou bien pour vous, puisque vous êtes commerçant.
Oui.
Ce qui vous importe, c'est le revenu. Mais on se demande, on ne se pose pas la question de savoir qu'est-ce qu'il y a dans tel carton, qu'est-ce qu'il y a dans tel sac. Voilà, attirer l'attention pour que, voilà, surtout avec ce qui se passe au nord de notre pays, il est démontré que toutes nos frontières ne sont pas officielles. Il y a des voies clandestines. Le gars traverse la voie clandestine. On peut traverser une frontière. Puisque, par essence, une arme légère ou arme de petit calibre, elle est petite, elle est dissimulable. Déjà, votre confrère Firmin, je crois que c'est un boubou qui ne dit pas son nom. S'il a un pistolet sur lui, je ne peux pas savoir. Cette dissimulation, vous voyez, peut être source, de danger dans un bus, dans un taxi, même sur moto. Nous considérons que
ça dit tout le monde est susceptible, et d'avoir même d'ailleurs l'âme, il faut du contrôle.
Exactement. Il faut un réflexe sécuritaire.
Justement.
Au niveau non seulement des gares routières, mais aussi au niveau des compagnies privées.
Alors, parlons du dispositif visant à l'amélioration de la coopération internationale. Comment évaluez-vous la coopération actuelle entre votre unité et les forces de sécurité d'autres pays en matière de gestion des armes?
Au niveau de la CEDEAO, nous avons, qu'on dise, au niveau en matière sécuritaire, c'est vrai un peu tout doux de la CEDEAO, mais je crois que c'est l'exemple au niveau international. Pour ceux qui ont l'occasion de participer à des rencontres relativement à ce volet, la CEDEAO, c'est la structure au niveau Afrique la mieux structurée. Donc, nous avons ce qu'on appelle la convention de la CEDEAO qui réglemente, l'achat d'abord et puis le partage d'informations. Oui, les relations sont bonnes parce que chaque année, il y a une rencontre annuelle pour faire le bilan. En termes de bilan, c'est-à-dire qu'il y a partage de connaissances, partage d'expériences et aussi projeter des perspectives pour les années à venir. Disons, le Togo est parti à pratiquement tous les tests ou instruments internationaux relativement aux armes, notamment le traité sur le commerce des armes. Je vous parlais tantôt de la convention sur les armes légères de petit calibre. Il y a le protocole sur les armes à feu. On est parti à tous ces tests-là et on essaie au mieux que possible de les traduire au niveau national. Certes, nous avons une plainte, je me permets de le dire parce que notre code législatif est dépassé. Et il y a un travail qui est en train de se faire à travers la commission. Pour vous qui êtes hommes de médias, vous rappelez que le 31 janvier 2024, en Conseil des ministres, il y a eu un projet de loi qui a été adopté sur le régime des armes. Je crois que le nouveau Parlement, puisque désormais c'est les députés et les sénateurs, pourront se saisir ce test-là pour que rapidement, pas rapidement, mais bon, ce serait peut-être une injonction, pour que dans le meilleur délai, et qu'on ait un test moderne qui réduit justement ce volet, qui est très stratégique.
Mais est-ce que vous avez peut-être des exemples de succès et aussi peut-être des défis rencontrés dans les initiatives de coopération internationale passées ou en cours?
Oui, en termes de succès, je crois que le Togolais est connu partout comme travailleur. Parce que surtout, j'ai parlé du marquage. Je ne sais pas si j'en ai parlé du marquage déjà. Nous avons eu nos compatriotes qui ont été sollicités hein, dans d'autres pays, notamment au Sénégal, au Bénin, à Madagascar, pour former les gens sur comment marquer les armes. Disons que c'est un succès. Nous sommes aussi... il y a un compatriote de la société civile, M. Aclavon Philippe, pour ceux qui le connaissent, qui s'est spécialisé dans ce domaine, qui aujourd'hui donne des conférences à gauche et à droite. Je crois que c'est aussi un succès. Nous-mêmes... À des moments, nous sommes sollicités aussi pour des formations. Et l'autre succès majeur, c'est que l'expérience du marquage des armes, c'est l'unique d'ailleurs au niveau de la CDAO, c'était de marquer les armes des personnes privées, c'est-à-dire les civils. Et en 2014 et 2017, jusqu'alors, il y a eu plus de 10 000 armes marquées. On sait que c'est un succès. Ailleurs, on marque plutôt les armes des fonds de défense et de sécurité. Il faut dire que voilà, cette politique a reçu l'adhésion de la population. Parler de plus de 10 000 armes, ça veut dire que c'est un entrain parce que l'aspect sécuritaire, je crois, intéresse tout le monde et chacun des Togolais en fait une priorité. Voilà.
Alors, je sais que Gabin Diaro vous suit avec tout intérêt. Je ne sais pas s'il a une question à vous poser, Gabin.
Oui, bon, avant la question, une petite contribution, parce que je me rappelle très bien, il y a pratiquement 2 mois, je voulais faire envoyer un colis au nord du Togo par le biais d'une société de transport. Mm-hmm. Et bon, c'était emballé dans un carton et tout. C'est là qu'on me dit que non, monsieur, ce n'est pas possible, vous serez obligé de tout déballer, d'enlever le carton pour qu'on sache réellement ce qu'il y a dedans. Certes, vous allez envoyer le cadeau, mais on doit savoir le contenu. Mm-hmm. Je lui ai posé la question et il me dit que non, et qu'il me connaît, que je suis un homme de médias. Et donc, de savoir qu'il y a une sensibilisation qui a été faite au niveau des sociétés de transport par rapport au fait que, bon, il y a certains qui font passer des armes par le biais des colis hein, qu'ils transportent la plupart souvent. Donc, j'étais là, même les dames qui ont acheté des produits au marché pour envoyer au Nord, je vous assure, ils ont tout fouillé au peigne fin. Et je pense que c'est maintenant, je me rends compte véritablement, il y a un travail de fond qui avait été fait. Maintenant, la question est de savoir, par rapport... au braquage, parce que on a remarqué, hein, il y a une certaine période, heureusement que bon, en 2025 on n'a plus véritablement connu ça, des gens qui braquent à main armée. Et en 2024, j'étais à Moutievé quand il y a eu des tirs à l'arme. Hein. C'était devant moi qu'un jeune...
Parlons du marché.
Oui, parlons du marché. C'était devant moi, près d'une vendeuse de bouillie, qu'un jeune est tombé comme ça. Moi, je me suis couché par terre, pantalon déchiré et tout. J'avais eu la peur de ma vie parce que c'était la première fois que j'entends les coups de feu d'aussi près. Qu'est-ce qui est fait véritablement par rapport à cela? Parce que les armes qui ont été tirées, je ne peux pas dire que c'est des armes de... artisanal plutôt. Je peux pas dire que ce sont des armes artisanales. Ça, c'est des AK-47 ou bien quelque chose du genre.
Sophistiquées.
Comment se fait-il que ces armes-là rentrent sur le territoire? Quelles sont les mesures prises? Et aussi, ma deuxième question par rapport aux chasseurs.
Oui, aux chasseurs. Ce que nous allons faire, on va laisser Jonas répondre à cette question d'abord. Jonas?
Oui, effectivement, merci. Je voudrais saluer le réflexe que vous avez eu. Je suppose que c'est lorsqu'on a tiré que vous êtes couché, c'est ça?
Oui, bien sûr.
Voilà, c'est le meilleur réflexe parce que partout ailleurs, c'est lorsque vous êtes debout que la cible, vous êtes plus la potentielle sur laquelle on peut tirer. Donc, le réflexe, c'est que c'est de vous jeter par terre. Voilà, je voudrais féliciter justement, saluer ce réflexe-là que vous avez. Donc, pour répondre, comment les hommes rentrent? Vous savez, notre zone... a connu des pays où, voilà, même enfin, aujourd'hui, il y a même des pays dont l'existence est menacée. Et ça veut dire à travers cela, les armes peuvent circuler. on n'a pas, je disais qu'on n'a pas la maîtrise du contenu de toutes les frontières. Lorsque vous êtes porteur d'une marchandise dangereuse, vous faites tout pour ne pas passer par les voies officielles. Et parce qu'en passant par là, la fouille sera faite. Ou bien il y a ce que nous appelons un capteur qui signale que voilà, telle personne arrivée, bon, ayez un œil particulier sur lui. Donc, oui, le cas du grand marché, par exemple. L'arme, après le braquage, lorsqu'on a eu des recherches, on s'est rendu compte que l'arme venait de la Côte d'Ivoire. Et cette arme, heureusement, a été marquée. C'est le marquage qui a permis de nous rendre compte qu'elle venait de la Côte d'Ivoire. Et de surcroît, elle venait des stocks nationaux. Vous comprenez que...
Ah bon, vous dites stocks nationaux?
Bien sûr. Vous comprenez que c'est en cela que tout le monde n'est pas appelé à être gestionnaire d'armes. Tout le monde n'est pas appelé à être gestionnaire d'armes. Donc, la guerre dans la sous-région où fait que les armes circulent, je ne peux pas vous dire exactement d'où viennent les armes, mais il y a des voies par lesquelles les armes passent pour arriver. Pour vous rappeler, si je ne me trompe pas, avant 2006, c'est ça la deuxième élection présidentielle au Bénin, c'était en 2016, c'est ça?
2016.
Voilà. Il y a eu une saisie d'armes parce qu'il y avait un camion de transport qui allait à qui devait aller au Bénin à travers le nord. On a saisi un véhicule qui a quitté le Togo, puisque le véhicule venait du Ghana, qui a traversé la frontière. Et lorsque à la traversée, c'est au Bénin, on l'a saisi et on a retrouvé des munitions. Vous voyez, tel que je le dis, si le conducteur n'est pas vigilant, ou bien même s'il y a une certaine complicité, c'est que à travers ce canal-là, les armes peuvent circuler. Donc, il y a plusieurs canaux. Et là, ce qui est fait, je crois qu'au niveau du Togo, il faut se féliciter parce que beaucoup de choses sont faites. Et bon, c'est vrai, on dit on ne peut pas s'apprécier en dansant, mais je crois quand même que dans la sous-région, le Togo est un des meilleurs pays où la sécurité est garantie. Mais la preuve, parce que nous avons des partenaires qui utilisent des personnels techniques qui étaient installés dans certains pays qui ont décidé de venir s'installer au Togo. Ça veut dire que c'est un bon signe au niveau sécuritaire et puis ça rassure.
D'accord, merci. Deuxième question.
La deuxième question, c'est par rapport aux chasseurs dans nos villages, ceux-là qui tuent les agoutis et puis on achète chez eux. Comment est fait pour répertorier premièrement ces détenteurs d'armes et ensuite comment faire pour attribuer une arme à un tel propriétaire en cas d'utilisation malencontreuse de cette arme-là.
Bref, est-ce qu'il y a un encadrement lors de l'utilisation, lors de ces armes?
Oui, l'encadrement, c'est quoi? Par exemple, je disais, nous tous, la plupart d'entre nous venons des fermes, je dis la plupart, voilà. Oui. On sait qu'on utilise les armes pour des fins de chasse. Ce qu'il y a recommandé, vivement, c'est que les gens aillent se faire enregistrer au niveau des préfectures. Là, au moins, vous êtes quitte si jamais il y a une opération coup de poing. Parce que quand vous vous enregistrez, il y a un récépissé qu'on vous délivre.
D'accord.
Et si jamais un policier, un gendarme débarque, ou bien même un forestier, vous sortez le récépissé et dit, bah, voilà, au moins, vous avez commencé un début de régularisation. Et s'il y a des difficultés particulières, on peut saisir la commission, puisqu'on est même arrivé à intervenir pour des cas. Et on a réussi à régler les cas. Donc, c'est l'enregistrement et puis le marquage. Le marquage, quand je dis plus de 10 000 armes, ce n'était pas seulement à Lomé. Je prends par exemple la préfecture de Lavé. On nous avait dit qu'il n'y avait pas d'armes, mais lorsque l'équipe est allée, elle a marqué plus de 1000 armes dans Lavé. Surtout le sud, ouest. Tous les pays, plutôt les localités longeant le Ghana, le constat, c'est que c'est dans ces zones. C'est sur la base des chiffres. C'était la même chose à Agou. On a eu près de 1500 armes marquées. Vous voyez, donc, si nos parents se sont prêtés au jeu, ils sont allés, marquer leurs armes, c'est qu'ils sont de bonne foi. Et à ce niveau, on a le bénéfice de leur accorder D'accord. À leur bonne foi.
D'accord. Merci. Merci beaucoup, Jonas. Nous sommes rejoints par Germain Pouli. Germain, bonjour.
Bonjour, Pascal. Bonjour.
J'espère que vous allez bien.
Oui, je vais bien.
Mais je ne sais pas si vous avez une question, mais ce qui est sûr, il y a notre temps aussi qui avance. Mais je vous permets alors juste de poser une question.
Alors, là, pour le civil, quelles sont les conditions pour détenir une arme au Togo?
Oui, mais au-delà des civils, parce que même si un policier veut avoir une arme à titre personnel, c'est les mêmes conditions. Et le principe, c'est qu'il faut d'abord être majeur et il faut adresser une requête au ministre de la Sécurité qui va faire l'étude nécessaire, puisqu'il y a une équipe autour de lui. Et si l'enquête de moralité donne des résultats concluants, c'est qu'on peut vous attribuer une arme. Parce qu'il y a ce travail d'étude qui est fait autour de vous pour voir est-ce que vous êtes sain d'esprit, par exemple. Ben, si vous ne remplissez pas les conditions, voilà, malheureusement, on ne peut pas vous attirer. Parce que la gestion d'une arme, c'est délicat.
C'est sensible.
Non seulement sensible, je vais au-delà de la sensibilité. Parce que même les officiers qui sont dotés d'armes de service, certains, avant d'aller à la maison, laissent leur arme au bureau. Parce qu'on ne sait pas, on ne sait jamais.
Les enfants.
Il y a les enfants, mais nous-mêmes, bon, il arrive qu'on ait des querelles de couple ou bien.
Voilà.
Et bon, ça peut arriver. Donc, il faut prendre toutes les précautions. Bon, pour répondre justement à votre question, vous adressez une requête au ministère de la Sécurité et la procédure sur son cours normal.
D'accord. Merci beaucoup, Jonas Paka, d'être passé dans cette émission. Ce qui est sûr, vous restez avec nous. Déjà à partir de midi, nous allons donner la parole à nos auditeurs. Je sais certainement qu'ils auront des questions à vous poser. Mais je rappelle juste que vous êtes alors le secrétaire permanent de la Commission nationale de lutte contre les armes légères et de petit calibre. Et nous avons discuté, surtout dans le cadre alors de la campagne médiatique « Moi de l'amnistie » de l'Union africaine 2025, et justement vous nous avez apporté des précisions, des explications également sur un certain nombre alors de préoccupations. Merci d'être là et merci de rester avec nous. Alors nous allons poursuivre le débat ici au Club de la Presse. Oui, Germain, j'annonçais justement déjà dans mes mots introductifs ce début d'année même d'ailleurs pour le pays Guin, où hier la pierre sacrée a été prise. Et le message de la pierre, on le sait, et la pierre est de couleur blanc sale, et la pierre annonce globalement une année de prospérité, sans toutefois perdre alors de vue des interdits préalables qui la conditionnent. En clair, pour cette nouvelle année, la pierre sacrée recommande de ne pas se prévaloir de ce qui ne t'appartient pas, et ce qui n'est pas à toi ne t'appartient pas. Et donc c'est un peu ça le message là. Est-ce qu'on dira que la pierre a juste vu quand même la situation, notre société, et s'est prononcée sur la société?
Oui, je pense que la pierre, elle est là pour ça également. C'est pour guider les citoyens, non, de façon spirituelle là. Et on arrive quand même à déchiffrer le message de la pierre à partir de sa couleur. Et on sait que de temps en temps, la couleur change. Mais généralement, elle tourne autour du blanc. Et ça veut dire qu'il y a une bonne nouvelle en fond. Alors que cette fois-ci, elle est de couleur blanc sale. Ce qui veut dire quand même qu'il faut prendre certaines précautions. Je pense que nos traditions en droit de cité, c'est des choses que nos ancêtres faisaient, sur qu'ils obéissaient aux préceptes et aux recommandations donc de ces rites traditionnels. Et aujourd'hui, même si ça se perd un peu dans les grandes villes, il y a néanmoins ces grands rassemblements-là autour de ces fêtes traditionnelles où les natifs, ils viennent de partout, de la diaspora, ou ceux qui sont au pays se réunissent, et donc se réunir et avoir ce genre de message, pour moi, c'est très important. Et cette valorisation de nos coutumes par les autorités, parce qu'on a institué ces fêtes traditionnelles-là, on en a connu depuis le mois de juillet jusqu'en septembre. Il y a eu plusieurs localités qui ont célébré ces fêtes-là. Et pour moi, c'est une bonne chose. Je n'ai pas eu la chance d'y aller, mais je crois que ça se poursuit quand même.
Je suppose que ça se poursuit.
Jusqu'à ce week-end. Et peut-être, il y a 2 ans, un confrère nous avait invités, on a passé de très beaux moments à Nero. J'espère peut-être que d'ici la fin du week-end, on fera quand même un crochet pour vivre les derniers moments de cette grande fête traditionnelle.
D'accord. Oui, mais Firmin, c'est vrai que la pierre donne une autre gestion, injonction, j'allais dire, et c'est par rapport aux femmes d'autrui, et la femme, la pierre demande également que cela cesse, c'est-à-dire pour ce qui concerne ces gens-là qui cherchent alors des femmes d'autrui, et la pierre dit qu'il y a le malheur là, en cela, et donc ça veut dire que c'est un mal également de notre société.
Oui, moi je voudrais dire deux choses. La première chose en réalité, cette coutume ça existe chez toute la localité. C'est-à-dire, avant de rentrer dans une nouvelle année, vous devez aller voir votre Dieu, Dieu avec des IE, grand D, et Dieu avec petit D aussi. Les Israéliens, la nouvelle année commence à partir du mois d'avril. C'est leur Pâques. Mais aujourd'hui, on nous a imposé le calendrier romain où on commence la nouvelle année avec le 1er janvier. Par exemple, chez les Akbosso, c'est une autre date. Chez les Guins, c'est aussi une autre date. Au fait, quand vous allez voir votre Dieu, il vous dit exactement ce qui va se passer les 12 prochains mois. Et on vous interdit un certain nombre de choses.
C'est une forme de consultation.
C'est une forme de consultation. On fait ça. C'est comme quand vous, Pascal, vous êtes chrétien, je le sais, avant de rentrer dans la nouvelle année, vous allez voir votre Dieu. Hier, les chrétiens, ils prient et Dieu leur révèle des choses. Que, par exemple, dans cette année, vous aurez tel malheur, tel malheur, tel malheur. Peut-être vous avez eu à commettre des bêtises, mais vous devez cesser ces bêtises. Sinon, vous aurez tel malheur, tel malheur. Et vous priez. Mais quand vous voyez aussi les malheurs, qu'est-ce qu'on fait? Des fois, on fait des sacrifices, on prie, on fait, chez les catholiques, on fait des commandes de messe. Maintenant, c'est presque la même chose. Chez les Guins, eux, ils vont voir leur Dieu. Leur Dieu, on parle de divinité noire, tout ça, mais ils vont voir leur Dieu et on leur dessine toute l'année.
C'est ça. Il y a pratiquement 41 divinités.
41 divinités. Donc, ils vont voir leur divinité et leur divinité leur dit tout ce qui va se passer durant l'année. Et donc, quand on parle des malheurs, on parle. C'est le péché qui engendre le malheur. Mais quand on vous dit avortement, on dit parler aussi d'avortement, on a parlé de femmes d'autrui. Quand on vous dit ces choses, ça veut dire que dans le passé, vous avez eu à commettre ces choses-là et peut-être cela constitue aujourd'hui une partie des malédictions qui pèsent sur vous. Donc, si vous ne voudrez plus vivre ces malédictions à l'avenir, voilà ce que vous devez cesser. Et quand on dit, on insiste, quand un Dieu, D-I-E, pas ou grand D, insiste sur certaines choses, ça veut dire que vous avez coutume, vous avez l'habitude de faire ces choses-là. Ça veut dire que peut-être dans le pays Guin ou dans tout le pays Togo, on s'amuse ou on se plaît à avorter et on se plaît aussi à prendre la femme d'autrui. Sinon, ça ne sortirait pas là, dans leur couvent. Donc, ce qu'il faudrait faire, c'est que nos jeunes, parce qu'il y a beaucoup qui disent aujourd'hui, on ne sait pas pourquoi la jeunesse, il y a beaucoup de jeunes qui meurent. Parce que peut-être aujourd'hui, on se plaît à prendre la femme de son ami, la femme de son copain, et aussi on se plaît aussi à avorter. C'est-à-dire, on se plaît dans nos petites relations sexuelles, la petite tombe enceinte, et puis on se dit, bon, on va l'avorter, alors qu'on oublie que tous ces actes-là, devant les dieux, ou devant le grand Dieu, entraînent des conséquences très fâcheuses. Donc, je pense que c'est, au-delà de tout, c'est aussi une bonne nouvelle, parce que mon pasteur m'a dit, il n'y a pas de mauvaise révélation. Non, il n'y a pas de mauvaise révélation. Du moment où on vous la révèle, même si c'est votre moment qu'on vous révèle, c'est une très bonne révélation parce que ça va vous amener à travailler, à contrer cela.
D'accord. Oui, Gabin, c'est vrai que la pierre prône aussi la solidarité, l'amitié, l'entente et la fraternité. C'est des valeurs que nous devons cultiver.
Oui, ce sont des valeurs que nous devons cultiver. Premièrement, j'aimerais souhaiter quand même une nouvelle bonne année au peuple Guin. Je pense que c'est normal, en fait. Ce sont des valeurs qui caractérisaient le peuple togolais, la solidarité, la fraternité, le soutien à autrui, le fait de se supporter dans les difficultés et tout. Mais ces valeurs-là tendent à disparaître aujourd'hui. Chacun reste dans son cocon familial, et même dans la famille même, on a du mal à se supporter, à apporter son soutien quand l'autre est en train de traverser des difficultés. Donc aujourd'hui, prenez quand
donc
même cette valeur-là.
Donc on pense que le capitalisme est passé par là.
Oui, le capitalisme hein, qui fait aussi place quand même à l'individualisme, c'est un peu compliqué aujourd'hui. Même ceux-là qui en ont ne veulent plus partager, ne veulent plus donner à l'autre aussi. C'est par peur aussi. Vous voyez un peu, avant on disait même l'enfant, certes, tes parents sont tes géniteurs, mais tu es quand même l'enfant du peuple, de tout le monde. Ça veut dire que tout le monde peut t'apporter quand même son éducation pour que tu sois quelqu'un de très bien demain. Mais aujourd'hui, il suffit juste de toucher un enfant pour voir ce que ses parents vont te faire, même si l'enfant a commis une bêtise. Donc aujourd'hui, ces valeurs-là doivent revenir. Après, bon, par rapport à la prise de la pierre sacrée même, sont des choses, hein, pratiquement le même message pas chaque fois. L'année passée aussi, on nous a parlé d'avortement et autres. Donc ça veut dire que, bon, et les filles et les enceinteurs aussi, ils doivent essayer de cesser hein, les avortements parce que c'est la loi prévoit quand même des mécanismes dans lesquels on peut, par lesquels on peut avorter, hein, mais juste comme ça, par plaisir, non, je ne pense pas que ça soit une bonne chose. Et c'est des valeurs morales qu'on essaie de faire véhiculer. Et pour une fois aussi, il faut saluer quand même hein, que la prise de cette pierre-là, il n'y a pas eu de violence, il n'y a pas eu de pression de gauche à droite,
depuis
un moment. C'est pratiquement trois éditions. Je pense que ça doit continuer comme ça pour que nos cultures hein, ne soient pas quand même des terreaux fertiles aux petits conflits.
D'accord. Oui, Samir, c'est vrai que la pierre parle également alors de l'avortement et la pierre est ferme là-dessus. Hein, et que cessent alors les avortements et également le message de la pierre continue hein, par dire que surtout hein, pour ceux qui maudissent et font du mal à leur prochain, il faudrait quand même qu'ils arrêtent alors de chercher du mal à autrui. Ça aussi, c'est un mal qui gangrène notre société, c'est ça?
Mais écoutez, Pascal, moi, je suis très heureux de savoir que le peuple guin a retrouvé dans son ensemble toute cette sérénité, qu'il y a eu cette union autour de leur fête traditionnelle, de ce qui les rassemble et les ressemble véritablement. Parce que par le passé récent, c'était pas la quiétude au sein de ce peuple-là. Donc, je suis heureux également que tous ceux qui sont adeptes de ces pratiques-là se retrouvent dans ces messages qui ont été dévoilés par la prise de la pierre sacrée. Et vous savez que tout ce qu'ils ont révélé là, ce n'est pas nouveau. C'est-à-dire que tout ce qu'ils ont dit, tout ce qu'ils disent tous les ans, ce n'est pas nouveau.
Mais justement, est-ce qu'on n'a pas l'impression que chaque année, on a aussi les mêmes messages?
Mais vous savez que avant l'introduction de la religion en Afrique, plus précisément avec la colonisation et toutes les religions qui ont été introduites, l'Africain, de façon globale, ou le Togolais accordait une certaine importance aux us et aux coutumes. La coutume, c'est quelque chose de sacré. D'ailleurs, même vous comprendrez que dans la plupart des normes qui régissent le fonctionnement de nos sociétés, le droit était inspiré de la coutume. Vous retrouverez certaines règles de droit qui s'inspirent de la coutume, de ce que nous avons comme pratique, notamment cette question de dot, par exemple. Donc, vous comprenez que tout ce qu'ils sont en train de dire aujourd'hui, tout ce que la société rencontre, ce sont des choses qui arrivent. Mais quand on habille tout ce que nous vivons en ces cérémonies solennelles, ça donne une certaine solennité à ces actes-là, à ces révélations-là. Et ça permet à ceux qui sont adeptes de ces pratiques-là de se dire qu'en fait, nous devons faire attention parce que ça vient d'un dieu. D'un dieu avec petit D, I, E, U et I, E, U.
Comme quoi, ça donne un caractère sacré à la chose.
Ça donne un caractère sacré pour dire que dans notre pratique quotidienne, nous devons faire attention à ce qu'on ne heurte pas la sensibilité de notre divinité, de ce que nous adorons, de ce que nous avons le plus cher dans notre communauté. Sinon, en fait, quand vous prenez toutes les règles de droit qui régissent notre société, que ce soit le code pénal, que ce soit le droit de le code des personnes de la famille, que ce soit le code de l'enfant, que ce soit tous les textes qui régissent, vous comprendrez qu'il y a certaines choses qui ne sont pas admises. Que cela représente, je dirais, soit des infractions, soit des délits. D'ailleurs, même quand vous prenez, on dit de ne pas toucher la femme d'autrui. Vous savez que l'adultère est une cause du divorce. Ça, c'est le code des personnes de la famille qu'il dit. Donc, en fait, ce sont des problèmes que nous rencontrons dans nos sociétés et qui font qu'en fait, il y a certaines choses que nous entreprenons, des prières que nous adressons à ces divinités-là, et parce que nous avons des âmes souillées, c'est, il faut le dire clairement, parce que nous avons des pratiques obscènes, nous avons des pratiques qui sont contraires aux us et coutumes, donc ça veut dire que tout ce que nous entreprenons, et même certains sont allés très loin à expliquer que si aujourd'hui nous n'obtenons pas des récoltes assez conséquentes, si aujourd'hui nous n'avons pas des pluies régulières, c'est parce que nous suivons la terre sur laquelle nous sommes par nos attitudes, par nos comportements. Et je pense que c'est de bonne guerre lorsque de telles occasions solennelles se présentent et qu'on puisse rappeler à ceux qui sont adeptes de ces pratiques-là, parce que ce qu'ils disent ne sont pas contraires à ce qu'on nous enseigne dans les religions occidentales, le christianisme, l'islam et tout ce que vous connaissez par religion et vous connaissez comme religion, ce n'est pas vraiment différent de ce que nous vivons dans nos différentes religions. D'accord. C'est pour dire que cela contribue à renforcer la cohésion sociale.
D'accord, merci beaucoup. On va aborder un autre sujet. On aborde le plat de résistance alors de cette émission. C'est bien ce sujet qui fait l'actualité déjà depuis mercredi. Et là, je vais bien parler alors de l'arrestation, de l'interpellation de l'ancienne ministre des Armées. Bien sûr, Madame Niakadet Marguerite Germain, c'est vrai, nous avons tous ensemble appris cela. Il y a des journaux qui sont revenus sur le sujet ce matin. Le journal Liberté revient sur le sujet. Le journal écrit des montages et affabulations grotesques pour motiver l'arrestation de Marguerite Niakadet. Et le journal continue, vague d'indignation et de consternation de la classe politique. Autre journal qui revient sur le sujet, c'est bien le journal Togo Matin qui titre « Marguerite Niakadet, sa situation judiciaire pourrait connaître des évolutions ». Également, autre journal, c'est le Canard indépendant. Le Canard indépendant qui écrit « Arrestation de Marguerite Niakadet, début d'un plan pour neutraliser l'opposition ». C'est une question que le journal se pose. Le journal écrit et à la suite de cela, l'événement raconté par TV5 Monde. Germain, vous avez appris, tout comme nous aussi, cette arrestation, l'arrestation de Madame Niakadet. Est-ce que vous avez été surpris?
Étais-je surpris? Non, je ne suis pas surpris. Peut-être je ne m'y attendais pas. Mais c'est différent d'être surpris parce que on a vu plusieurs affaires avant l'affaire Niakadet. Donc on a vu des ministres arrêtés, on a vu des généraux arrêtés, tout cela. Donc ex-ministre de la Défense, c'est possible. Donc il n'y a pas une véritable surprise. Mais après, je crois que cette arrestation a été faite quelques jours, en tout cas plusieurs jours après la dernière manifestation. Cela, je peux dire, je ne m'y attendais pas. Maintenant, au fond, on n'en sait pas grand-chose. Je suis un peu surpris quand des journaux s'amusent à dire qu'il n'y a rien, à dire qu'on veut décapiter le prochain, un certain nombre de choses. Non, je crois qu'il faut attendre que la justice balance au moins les premiers éléments de ce qui est en train de se faire. On n'en sait rien du tout, donc c'est vraiment difficile de se prononcer. On ne sait pas ce qui est à la base, quels sont les éléments dont dispose la justice donc pour procéder à cette interpellation. Et vous savez que généralement, ces affaires judiciaires sont entourées d'un secret, le secret de l'instruction, donc il n'y a pas beaucoup de choses qui filtre. Donc, et en tant que journaliste, je ne m'amuserais pas à me prononcer sur des faits dont je n'ai pas connaissance. Mais quand on observe l'évolution de la situation avec les prises de position de la dame, avec les tribunes qu'elle publie, avec cette prise de parole et tout ça, donc on pouvait imaginer qu'on puisse l'arrêter parce que plusieurs personnes ont pu être arrêtées ou ont été arrêtés pour des faits similaires. Certains qu'on puisse encore en prison aujourd'hui, mais je crois véritablement sur le soupçon de déstabilisation du pays, il faut attendre plus d'éléments avant de pouvoir se prononcer sur cette affaire.
D'accord, Gabin. Oui, c'est vrai. Assurons-nous du fait avant de nous inquiéter de la cause. C'est Bernard de Fontenelle. Mais le fait qui est là aujourd'hui, c'est qu'il y a eu arrestation. Et là, on peut se prononcer alors sur ce fait. Et c'est vrai, on connaît Madame Niakade sur cette tribune. Et on a vu également ses sorties tout récemment en vidéo où elle condamnait un certain nombre de choses sur la gouvernance alors du pays. Mais est-ce que cela aussi pourra lui valoir cette arrestation?
Si c'est juste par rapport à cette tribune est sortie, sincèrement je ne vois pas, là où ça pose problème, pourquoi puisse l'arrêter, parce que bon,
est-ce qu'à un moment donné elle ne devenait pas aussi dérangeant?
Bon, ça c'est ceux qui sont en face qui doivent nous le dire, parce que si elle est dérangeante, bon, ce qu'elle disait c'était pas quand même des choses nouvelles, hein. Beaucoup d'acteurs politiques et même de la société civile critiquaient déjà la gestion de M. Fonia Singbe, et elle est venue, elle a sorti des tribunes, qui sortait à chaque moment des tribunes avec des chiffres et tout. Moi, écoutez, moi j'ai beaucoup aimé ces sorties, parce que c'est chiffré, c'est beaucoup plus intellectuel. Ça ouvre un peu le débat politique qui, à un moment donné, était trop crispé avec les leaders de l'opposition qui sont là juste, bon, quitter le pouvoir, on va venir, et le parti au pouvoir aussi qui fait tout pour garder le pouvoir. Au moins, quelqu'un est venu avec un débat beaucoup plus intellectuel sur le champ politique togolais. Malheureusement, bon, aujourd'hui, elle est arrêtée. Jusque-là, on ne peut pas se prononcer. Tout ce qu'on peut dire aujourd'hui, bon, ce serait des supputations. Ce serait des supputations, le procureur n'a pas encore communiqué, on ne sait pas véritablement ce qu'on lui reproche, et donc on ne sait pas si elle a été juste interpellée pour être écoutée sur quelque chose, on ne sait pas trop, et donc je pense que on va patienter pour avoir la quintessence des informations de la part des officiels avant véritablement de critiquer ou bien d'adouber la décision de la justice. Donc pour le moment, moi la réflexion que je me suis faite, c'est que Dame Niakade, bon, vous savez, elle épousait pratiquement les idéaux du M66 qui lançait les manifestations et autres. Et dans la plupart de ses tribunes, même par ses sorties en vidéo, elle a dit qu'elle soutenait le mouvement M66. Maintenant, quelle est la considération du gouvernement par rapport aux dernières sorties des tenants du gouvernement, notamment le ministre colonel Awateo Dabalo et Isaac Tiakbe et compagnie? Ils ont traité le M66 de terroristes, des gens qui cherchent à déstabiliser la nation. Et donc, on peut créer une relation de là que, bon, si Mme Niakade épouse quand même l'idéologie de ces gens-là, ça veut dire qu'elle est en connivence avec eux pour déstabiliser le pays. Et donc, elle aussi, elle est terroriste, elle est déstabilisateur, elle est devenue gênante. D'autant plus que, bon, après avoir occupé un poste aussi stratégique comme le ministère des Armées, ça peut poser problème, ça fragilise le régime, parce que Dame Niakade, c'est pas n'importe qui, elle a des acquaintances avec la famille qui gère le pays, et elle a des acquaintances aussi avec le pouvoir, avec l'escarcelle du pouvoir, elle a géré le poste du ministère des armées. Et quand on se souvient de Monsieur Pachani Asingbe, qui aussi était ministre de la Défense, ben il y a aussi un peu une relation de là, parce que dès que tu sors et que tu commences par critiquer, ou bien tu restes à l'interne et que tu critiques, ça pose problème. Mais je me dis toujours que ce sont des supputations en entendant la sortie officielle du gouvernement, bien du procureur de la République, pour nous situer véritablement par rapport à ce qu'on reproche à Dame Niakade.
D'accord. Samir, est-ce qu'à travers les tribunes et aussi les vidéos, les sorties alors de Madame Niakade, est-ce que finalement elle n'était pas trop audible et que finalement on a l'impression qu'on veut justement la faire taire?
Mais écoutez, Pascal, moi je suis mal à l'aise quand j'aborde ce sujet-là pour plusieurs raisons. Parce qu'en fait, il y a beaucoup d'émotions, beaucoup de sentiments qui rentrent véritablement dans l'analyse de cette affaire. Je pense que nous devons faire un effort d'être objectifs. Nous devons faire un effort de laisser de côté nos émotions et voir le sujet tel qu'il est véritablement. Vous savez, Madame Essoziemna Marguerite Niakade a été directrice générale de la BTCI entre 2015-2018. Et vous savez à l'époque dans quelles conditions la banque était, la gestion catastrophique qui a caractérisé cette banque-là dans ces périodes-là. Et au-delà, après, elle est devenue ministre des Armées. Elle a fait 2 ans là-bas. Et tout d'un coup, un beau matin, on la dégage de ce portefeuille-là. On rattache le ministère à la présidente de la République. Et après, jusqu'alors, on ne connaissait pas véritablement. Je parie, beaucoup de Togolais ne connaissaient pas cette dame-là. Parce qu'elle était assez discrète. Elle était assez effacée véritablement. Elle était véritablement dans son coin. Il a fallu qu'on la démette de ses fonctions de ministre des Armées. Et quelques années, quelques années, plus tard, qu'on entend qu'elle veut lancer un mouvement. Après, elle commence par publier des tribunes. Et dans ces tribunes, ce qui m'a marqué, c'est qu'elle allait même dire que l'armée togolaise doit se mettre du côté du peuple et mettre fin au régime des Nyasingbé. Et avec des propos que certains opposants aujourd'hui qui ont pris la parole à la suite de son arrestation n'auront pas le courage de tenir. Moi, j'ai vu beaucoup d'opposants, Jean-Pierre Fabre, Madame Adjamagbo Johnson, elles n'auront pas, ces personnalités politiques n'auront pas le courage de tenir des propos que cette dame-là a tenus.
Est-ce que ça veut dire qu'elle était partie trop loin, là?
Non, pas qu'elle était partie trop loin. Mais vous êtes dans un pays régi par des tests. Au-delà de ce qu'on peut dire, c'est pour ça que je dis, il faut qu'on dépassionne le débat, qu'on soit objectif, qu'on voit, en fait, des propos qu'elle tient là. Quand on prend ces propos-là, qu'on met dans un cadre juridique, à quoi ça répond? Est-ce que ce sont des infractions? Est-ce que ce sont des délits? Est-ce que ce sont des crimes, véritablement? Et là, dans la foulée, vous avez vu, je dirais tout le débat qu'il y a eu. Vous savez, moi, je suis quelqu'un, fidèle au test. Je suis fidèle aux lois, quelles que soient les circonstances, quel que soit ce qu'on peut reprocher à tel, à X ou à Y, je suis toujours fidèle. Les conditions dans lesquelles Mme Niakade a été interpellée, ça, ce n'est pas une arrestation. Je pense que nous devons faire extrêmement attention. Parce que quand vous prenez le code de procédure pénale, ben, on dit que la personne, on l'a amené, c'est-à-dire c'est un mandat d'amener. Un mandat d'amener, c'est un acte. C'est un acte ordonné par un officier du ministère public, notamment le procureur de la République. Cet acte-là peut être procédé d'un acte de comparution. Ça peut être un mandat pour que la personne comparaisse, mais par rapport aux éléments dont dispose donc, le ministère public, on peut décider de d'outrepasser cette étape-là de comparution, parce que c'est quand on convoque la personne ne comparaît pas, qu'on délivre un mandat d'arrêt. Ensuite, le deuxième acte qui a eu lieu, c'est, je dirais, comment ça s'appelle, que son domicile a été perquisitionné. La perquisition, ce n'est pas une infraction, c'est un acte également. C'est un acte d'enquête ordonné par le juge d'instruction, qui lui-même peut se conduire sur les lieux ou être de façon dérogatoire représenté par un officier de police judiciaire. Et en l'occurrence, vous avez vu que c'est la DPCJ, donc l'officier de police judiciaire, oui, la DCPJ, qui s'est rendue pour perquisitionner, parce qu'il y a une enquête en cours, et le juge d'instruction a informé donc le procureur de la République par rapport à cette procédure qui est en cours. Donc moi, je pense qu'on ne doit pas aller trop vite en besoin. Nous ne devons pas faire comme les politiciens. Les gens se sont sursautés sur cette affaire-là, ne maîtrisant pas les tenants et les aboutissants.
Quand vous parlez alors
est-ce
qu'ils n'étaient pas dans leur rôle, ces politiciens également, qui donnent des réactions?
C'est pour ça que je dis, nous, en tant que personnes avisées, nous ne devons pas faire cette erreur-là de nous verser dans du dilatoire, dans ces supputations-là. Parce qu'en fait, mais contrairement à ce que M. Gabin Adjaou dit, moi je ne fais pas des suppositions. J'apporte des éléments de droit pour dire en fait ce qui a été fait.
Ce
qui a été fait. Est-ce que vous permettez que
des supputations?
Vous pouvez permettre que je finisse? Est-ce que vous pouvez permettre que je finisse? Ce qui a été fait se situe dans le cadre d'une enquête. Parce que ceux qui se sont rendus sur les lieux, ce sont les éléments de la police judiciaire. Est-ce que vous comprenez? La garde à vue qui a été effectuée respecte également les normes. Là où elle est gardée en vue, on sait dans quelles conditions la personne est gardée en vue. Donc je pense qu'on ne peut pas avoir occupé un poste régalien comme celui du ministre des Armées et après, et se permettre de tenir des propos qui qui rentre dans le sceau des infractions de droit.
D'accord.
Et se dire que parce qu'on est un citoyen, leader d'opinion, un acteur politique, on peut se soustraire.
D'accord.
Donc de la mise en œuvre.
Merci Samir. Fermin, dans la foulée, on apprend aussi que ce matin il y a l'artiste Amron qui a été de nouveau arrêté ou interpellé. C'est selon. Alors, déjà, est-ce que avec ces deux interpellations, c'est-à-dire de Madame Niakadet et aussi de Amron, on connaît leur position par rapport même d'ailleurs à la gouvernance alors du pays. Est-ce que finalement leur position pourrait leur coûter justement cette arrestation?
Non. Vous savez, il faut arriver à faire la différence entre un pouvoir et la gouvernance. La gouvernance, vous pouvez dire que Fonia Singbe ne gouverne pas bien, personne ne vous arrêtera. Vous pouvez dire qu'il y a corruption dans le pays, il faut que vous ayez des preuves. Ou vous pouvez même vous inspirer de cette fameuse phrase de Fonia Singbe qui dit « Une minorité s'accapare les richesses du pays, personne ne vous arrêtera ». Si Mme Niakadet se mettait dans la posture de saine critique opposante pour dire qu'on ne gouverne pas bien, que la dette publique est à un niveau élevé, je ne pense pas qu'on puisse l'arrêter.
Qu'est-ce qu'elle a dit alors de
non, non, vous savez, j'ai lu l'article du confrère Messager où on parle d'atteindre la sécurité intérieure, où on disait que dans les prochains jours, Mme Niakadet pourrait aussi être écoutée. Donc, quand j'ai vu, et puis j'ai vu des choses extraordinaires dedans, cache d'armes, sécurité intérieure. Et donc, on commence pas à vous citer dans ce genre de choses, ça veut dire que c'est sérieux. Ça veut dire que c'est le pouvoir. Vous savez, je ne parle pas du Togo, mais le pouvoir, c'est un monstre. Vous pouvez tout dire. Mais quand vous cherchez à heurter le pouvoir se braque et on vous écrase. Mais c'est le papa du Togo. On vous écrase, vous n'êtes rien en fait. Donc ici, quand on parle de sécurité intérieure, on parle de cache d'armes, tout ça là, on fait abstraction de toutes les règles que nous connaissons. On peut aller vous chercher à n'importe quelle heure. Vous n'êtes plus personne. Vous pouvez être femme du président, du président du conseil, vous pouvez être son enfant, sa maman, vous n'êtes plus rien. Parce que il faut tout pour sauvegarder et assurer la sécurité du pouvoir. Quand on rentre dans un pouvoir, des fois, on ne sait pas qui gère. Lorsque vous voulez attenter à la vie de ce pouvoir, on vous écrase. Je pense que nous sommes en train de rentrer dans cette dynamique où, du moment où Dame Niakadet, dans une de ses prises de position, a parlé d'armée et tout ça. Donc, quand vous parlez, vous sortez ces substantifs, certains vocables-là, vous n'êtes plus opposante. On vous cite dans des affaires de déstabilisation d'un pouvoir. Vous savez, vous connaissez l'histoire de...
Mais est-ce que ce ne sont pas peut-être des alibis, des prétextes, alors pour vous faire taire?
Non, nous, on n'a pas besoin de ça pour vous faire taire. On a besoin de ça pour vous faire taire. Si vous ne faites rien, est-ce que Dame Niakadet est la première personne? Vous connaissez Jean-Pierre Fabre? Vous lisez les communiqués de l'ANC? Mais c'est des communiqués durs. Mais personne ne les inquiète parce qu'ils restent dans les limites de la loi. Donc si Dame Niakadet critique Fonia Singbe ou son régime, qu'après 20 ans, il n'a rien fait, tout ça, la personne ne les arrêtera. Vous connaissez John Kennedy? John Kennedy, c'est lui qui était le président des États-Unis. Mais arrivé à un moment donné, il n'a pas compris que ce n'est pas lui qui gérait le pouvoir. Donc vous savez, le jour où il a commencé par s'attaquer à l'essence du pouvoir, ceux qui gèrent le pouvoir américain l'ont assassiné. C'est sans pouvoir. Le pouvoir, c'est un monstre. Moi, c'est pour ça que je dis souvent aux jeunes, vous pouvez critiquer le président de la République, vous pouvez critiquer le président du Conseil, vous pouvez critiquer la gouvernance. Mais faites attention à ce par rapport à ce qu'on appelle la déstabilisation d'un pouvoir ou la sécurité intérieure.
D'accord.
À ce niveau-là, le pouvoir vous écrase.
D'accord. Ok. Nous allons maintenant donner la parole à nos auditeurs. Je sais qu'ils s'impatientent à rentrer en ligne sur nos deux numéros 90 86 35 35 91 36 63 75 et aussi sur notre numéro WhatsApp 90 45 78 57. Mais bien avant, nous faisons un clin d'œil à nos annonceurs. 93.5. Nous sommes de retour dans cette émission Club de la Presse et maintenant nous nous ouvrons à vous. Vous pouvez nous appeler au 90 86 35 35 91 36 63 75. Vous pouvez nous écrire aussi sur notre numéro WhatsApp 90 45 78 57. Premier auditeur en ligne. Allô?
Allô, bonjour Monsieur Pascal.
Bonjour, comment vous allez?
Je vais bien, c'est Monsieur Maké depuis Zanguera.
Ah, Monsieur Maké depuis Zanguera, allez-y.
Oui. Au fait, c'est par rapport à l'arrestation de Madame Niakadet.
Oui, allez-y Maké. Allô?
Il est toujours en ligne, Michel. Il semble qu'il est parti. 90, 86, 35, 35. Allô? Allô, bonjour. Allô? 90, 86, 35, 35, 91, 36, 63, 75, les deux numéros sur lesquels vous pouvez justement nous appeler. L'ouverture des fréquences France 24 et RFI, c'est ce qui nous préoccupe, nous citoyens, nous ne sommes pas dans les affaires de ceux qui ont mangé et continuent de manger sans penser au peuple. C'est Zaleko qui nous a écrit, bien sûr, le message. Allô?
Oui, grand frère, bonjour.
Bonjour Benoît, comment vous allez?
Je vais mieux, et chez vous?
Ça va pas, la grâce de Dieu.
Je salue le plateau. Moi je voulais dire, nous les Togolais, respectons nous-mêmes, soyons calmes, n'appelons pas à la violence. La violence n'arrange rien. S'il y a un problème, soyons autour d'une table et discutons intelligemment. Trouvez une solution. N'appelons pas telle personne à faire sa part. Non, il faut discuter, dire à la personne, n'insultez pas la personne, mais nous devons apprendre à nous respecter. Et je demande au chef du conseil, au président du conseil, de, comme il est le père, c'est notre papa, de prendre son mal à comment je vais dire, de se calmer. Et entre nous-mêmes, nous allons trouver une solution. Même si on l'insulte, mais appeler les forces de sécurité à atteindre au pouvoir, là, c'est pas bon. Merci et bonne journée.
Merci, bonne journée à vous aussi, Benoît, 90-86-35. Allô?
Bonjour, Canal FM.
Bonjour, comment vous allez?
Bien, Richard, depuis Copenhague.
Ah, Richard, ça fait un moment.
Heureusement, je n'ai pas un poste récepteur ici pour vous écouter, mais je appelle directement de mon téléphone.
D'accord, allez-y.
C'était pour aussi placer un mot sur votre débat du jour. Je salue le plateau et félicitations pour Canal FM pour pouvoir mettre les pannes solaires à la radio. Félicitations à vous.
Merci beaucoup.
Pour l'arrestation de Madame la ministre, je pense que je m'attendais. Pas trop duré. Une personne de son rang, du secret de l'État, je pense qu'elle a manqué de professionnalisme. Et sincèrement, je demande au gouvernement de mettre fin au narcissisme. Je demande que la justice soit faite. Quand il y a des brebis, des personnes aussi comme ça, il faudrait ne pas donner assez de temps. Nous voulons un État sérieux. Pour ça, nous voudrons que quand il y a ce genre de trucs, interpeller des personnes.
D'accord.
Je pense que son sœur est partie trop loin.
D'accord, merci.
Et pour l'arrestation aussi du frère Abron, je ne sais pas pour le moment. Mais il faudrait que le droit soit dit. Merci Thierry, merci pour vos analyses.
D'accord.
Je vous adore.
Merci beaucoup Richard depuis Copenhague pour votre analyse. Bonjour le plateau, que Dieu vous fortifie. Parlons de souillure d'âme par avortement et l'adultère. Qu'en est-il alors des ONG et des plans qui permettent l'avortement? Merci, c'est Kossi qui nous écrit depuis ce codé. 90, 86, 35, 35, 91, 36, 315. Allô?
Allô?
Bonjour.
Bonjour le plateau.
C'est Monsieur Mahouto.
Monsieur Mahouto.
Oui, allez-y.
Vous savez, c'est triste au Togo, quoi. On a arrêté une dame, les gars disent que c'est normal. Parce que moi, je ne comprends pas quoi. La dame n'a qu'à dire qu'elle a fait du mal. Elle n'a rien fait. Elle ne peut pas empêcher l'armée de renverser le régime. Elle a retenu les doigts. C'est une femme qui connaît beaucoup. Là. Il y a tort. C'est difficile quoi. Que les gens soient disant qu'ils sont des juristes, que le droit est respecté. Avant d'arrêter quelqu'un ou bien perquisitionner quelqu'un dans sa maison, il faut que la maison soit présente, non? Est-ce que la dame était présente avant qu'on a perquisitionné dans sa maison? Monsieur le jury qui est sur le parti, il n'a qu'à me répondre pas. Quel droit qu'on respecte au Togo? Ceux qui gouvernent même ce pays, est-ce qu'ils respectent le droit?
Mais c'est pas où toi?
Oui.
Mais est-ce que vous ne pouvez pas aller sans patience, c'est-à-dire
non,
aller
c'est
calmement,
quoi, c'est quoi,
aller calmement.
Quoi.
D'accord, merci, merci mais... pour votre intervention. 90 86 35 35. Bonjour. Allô.
Allô.
Oui, bonjour.
Bonjour Pascal.
C'est Patrick.
C'est Patrick.
L'autre commandant.
Voilà.
Allez-y, Patrick.
Je salue les autres confrères qui sont avec vous là.
Mm.
L'invité est toujours là.
Oui, l'invité est toujours là.
D'accord.
Jonas Paca.
Voilà. Monsieur Pascal, vous savez, on peut quand même appeler directement le sexe masculin le pénis, mais on l'appelle le sexe masculin. Vous savez pourquoi? C'est pas humilité, c'est pas respect. Le monsieur, bon, c'est vrai, il a fait un développement. Tout d'abord, j'ai apprécié tout ce qu'il a eu à dire concernant la circulation des armes légères. Mais concernant les armes qu'il a fait cas, qui sont utilisées au niveau du grand marché, qui disait que c'était marqué en Côte d'Ivoire, mais qu'on retrouve sur le stock national. Vous ne pouvez pas cacher un peu le nom de tout ce que vous savez, comme toi-même tu le dis, M. Pascal, la radio, ce n'est pas seulement les Togolais qui l'écoutent. Hein. Il y a des étrangers aussi qui écoutent Canal FM. Si peut-être ils disaient qu'un pays voisin, ça ne serait pas mieux que de donner directement le nom de la Côte d'Ivoire. Bon, ça c'est un de deux. Maintenant, ce qu'il est en train de dire, ou concernant les officiers aussi, vous savez que c'est dans ce pays où dans un véhicule, j'ai oublié le nom, de quelque part à Lomé ici, où quelqu'un avait menacé un Z-man parce que le Z-man les avait insultés parce que le monsieur était avec sa copine. Il a sorti l'arme. Et ça, ce que je dis, c'est un journaliste même qui a eu à témoigner cela. Et nous tous, on a eu à condamner. Est-ce que c'est normal que quelqu'un menace son compatriote par une arme en pleine circulation parce qu'il a une copine à côté? J'en ai fini. Bonne émission.
Merci beaucoup, Patrick, pour votre intervention. Nous avons encore quelques minutes pour recevoir notre dernier auditeur pour le compte de cette émission. Allô? Basile, il semble que chaque fois que vous appelez, on doit toujours vous dire alors de diminuer le volume de votre radio.
Non, excusez-moi.
Allez-y.
C'est une radio que j'ai acquittée là, ça n'écoute pas ma voix.
Ah, mais il faut maintenant l'abandonner.
Ah ouais, je vais l'abandonner.
D'accord, allez-y.
Bon, pour l'homme de l'âme légère, j'avais dit ça sur Zepi, c'est l'hypocrisie togolaise. Les âmes qu'on prend pour faire... les armes qu'on prend pour faire des braquages, c'est les armes de guerre, les G3, Kalachnikov et autres. Les forgerons ne fabriquent pas ça. Maintenant, quand je viens à vos juristes qui supportent le gouvernement, moi, je ne comprends pas ce que nous endurons ici au Togo, là. Est-ce qu'ils trouvent un autre compte qui leur permet de venir nous narguer tous les jours qui viennent en studio? C'est ce que moi je demande. Je ne sais pas. Est-ce qu'ils ont un autre compte? Ce pouvoir qui nous martyrise, qui nous inflige des situations les plus humiliantes au monde. Quand on vient, on les amatouille. On les caresse dans le sang des poils. Et celui qui est à leur tête, il dit que lui ne parle pas.
Basile,
ouais.
On est toujours intéressé par vous, votre avis sur les sujets de la justice
au cours de la presse. Quand les gens viennent là,
oui.
Ils ne peuvent pas dire la vérité.
Mais c'est leur point de vue, il faudrait que vous vous dites maintenant la vérité. Puisque si vous estimez qu'eux, ils ne disent pas la vérité, dites-nous la vérité. La vérité, c'est quoi, Basile? Ah, finalement, il est parti. Merci, Basile. C'est le dernier auditeur pour le compte alors de cette émission. Je lis cette réaction rapidement avant qu'on ne fasse alors le dernier tour de table. Bonjour Pascal, bonjour le plateau. Les populations savent aujourd'hui là où se trouve leur intérêt. Quand on gagne, on gouverne. Les arrestations en cascade n'arrangent personne. On abandonne la proie pour l'ombre. Que veut le peuple? Posons-nous les bonnes questions. C'est Kokou qui nous écrit depuis Adido Gomé. Cher confrère, nous revenons en plateau pour faire un dernier tour de table. Monsieur Jonas Paca, vous avez écouté Patrick se prononcer justement sur votre réaction ou votre intervention. Et je sais que vous avez noté un certain nombre de
chose par rapport à sa réaction. Et oui, c'est vrai, vous avez cité la Côte d'Ivoire en citant un exemple, bien sûr, hein, et par rapport à un barquage qui s'est déroulé justement au Grand Marché. Et oui, c'est pour... quelle est votre réaction par rapport à cela?
Non, merci beaucoup. Cela veut dire que c'est l'intérêt hein, que les uns et les autres ont accordé à l'intervention. Et en fait, c'est de notoriété publique. La convention de la CEDAW qui nous régit institue ce qu'on appelle le régime de transparence. Donc, on ne peut pas faire de transparence sans indexer ceux-là qui sont de mauvais élèves. Je crois que même lors de nos réunions avec les autres commissions, on en débat. Donc, enfin, ce n'est pas un cas qui pourra créer un incident diplomatique parce que c'est connu de tous. Et je crois que ça a été partagé avec les autorités ivoiriennes. Ça peut dire quoi? Quand vous voyez un voleur, s'il a la bière rouge, il faut dire que c'est la bière rouge. C'est qu'il y a une défaillance au niveau de la Côte d'Ivoire. Nous avons interpellé nos collègues de la Côte d'Ivoire lors des réunions et cela a permis que des dispositions soient prises pour éviter que ce qui est au niveau des stocks gérés par l'État sorte. Ça veut dire que cela fait appel à quoi? À la moralité de ceux-là qu'on recrute pour gérer les stocks d'armes. Donc, c'est important de le dire. Certes, je prends note de ce qu'il a dit. Peut-être que nos fonctionnements ne nous permettent pas de cacher cette invérité.
D'accord.
Bon, relativement aux menaces dont a fait notre auditeur.
Non, c'est toujours lui.
C'est la même personne.
Oui, c'est la même personne.
Voilà. Moi, je crois qu'il y a. C'est un comportement que, enfin, nous, Togolais, on adopte qui ne nous arrange pas. Quand ces faits se produisent, il y a la procédure. Saisissez la hiérarchie. Aujourd'hui, il a fait de telle sorte que vous soyez militaire, vous laissez aux gendarmes sur votre tri. C'est inscrit l'honneur et prenons, même le corps. Prenez ça. Saisissez la hiérarchie. Les mesures seront prises.
D'accord.
Voilà.
Ok, merci. Jamais. 30 secondes, nous sommes à la fin de cette émission.
Oui, 30 secondes, moi je vais parler d'une opportunité pour les étudiants togolais. Vous savez, depuis que le Togo a adhéré au Commonwealth, il y a des opportunités qui se multiplient en ce moment. Ce sont les bourses pour étudier, pour les étudiants, pour le master, donc dans les grandes universités britanniques. C'est des bourses entièrement financées par le Commonwealth et les étudiants sont appelés à candidater pour bénéficier de ces bourses-là. Ils ont jusqu'au 14 octobre pour postuler. Je crois que c'est une opportunité qu'ils doivent saisir.
Merci beaucoup, Germain, de nous avoir fait part de cette opportunité. Oui, Gabin, 30 secondes.
Oui, comme on le dit souvent, nous sommes fils et filles d'un même pays. On ne gagne absolument rien en mettant un compatriote dans une certaine difficulté. Vivement que les choses se résorbent de la meilleure des manières et qu'on puisse ensemble construire quand même cette nation parce que ce pays-là a déjà subi à cette chose. On a besoin de véritablement mettre le pays au travail. On a besoin de toutes les têtes possibles, même les plus critiques, pour faire avancer ce pays.
D'accord.
Donc, que Dieu bénisse le Togo.
Merci. Samy Oroussama.
Mais je voudrais d'abord te remercier, Pascal, pour l'invitation. Ensuite, plaider auprès des autorités togolaises pour qu'on fasse en sorte que les réseaux sociaux soient réglementés de plus en plus. Il faut qu'on renforce la réglementation, qu'il ne soit pas permis à tout le monde de rester chez lui parce qu'il a un téléphone, parce qu'il a une connexion Internet et de débiter des insalités, de dire des choses qui portent atteinte à d'autres personnes et tout cela. Et donc, il faut renforcer la sensibilisation, renforcer la répression. D'ailleurs, même une petite parenthèse, j'ai suivi la dernière fois l'intervention du porte-parole du gouvernement ivoirien où il disait qu'un Ivoirien s'est amusé, a tenu des propos irrespectueux à l'endroit du président de la République grâce au travail donc des services techniques, on a détecté son téléphone, on a allé le rechercher et on l'a réprimé pour qu'il serve d'exemple. Donc je pense que nous devons aller dans ce sens-là.
Merci. Oui, Fermé, 30 secondes.
Moi, je voudrais juste dire merci à tous ceux qui ont appelé, mais nous dire aussi que, vous savez, la politique, c'est une science. Le pouvoir aussi, c'est une science. Donc, le Togo n'est pas un pays particulier. Le Togo ne fait rien d'extraordinaire. Lorsque vous vous lancez dans des recherches, vous comprendrez tout de suite que le Togo n'est pas un particulier, n'est pas un pays particulier parmi les pays dans ce monde. Donc, allons à l'école de la politique, allons à l'école du pouvoir et nous essaierons de comprendre certaines
choses. Merci beaucoup, Jonas Paka. Nous sommes à la fin de cette émission. Votre mot de la fin?
Merci à votre chaîne pour justement l'opportunité de partager justement ce mois d'amnistie décrété par l'Union africaine. Je voudrais terminer par justement la vision ou l'aspiration de l'Union africaine faisant en sorte que l'Afrique soit un pays en sécurité. Donc ça veut dire qu'il faudrait que nous contribuions tous à ce que le climat de paix et de sécurité qui est au Togo soit consolidé. Parce que sans paix et sécurité, il n'y a pas de développement. Je vous remercie.
Merci beaucoup, Jonas Paka. Je rappelle que vous êtes secrétaire permanent de la Commission nationale de lutte contre les armes légères et de petit calibre. Merci d'être passé chez nous, ici au Club de la Presse. Merci à vous tous qui nous avez suivis, puisque nous sommes à la fin de cette émission. Merci à Germain Poli d'être passé. Gabé Ndiaro, merci d'être passé. Merci à vous, Samir Ourosama, d'être passé dans cette émission. Firmé Teko Agbo, merci d'être passé dans cette émission. Nous faisons un clin d'œil à notre confrère Fabrice Paton Pétézi qui nous écoute quelque part, hein, bien sûr, nous lui disons bonjour et merci à vous tous qui nous avez suivis. Merci à Michel Tomega qui a assuré la mise en onde. Jérôme Dakouti a été à la mise en ligne. Je suis Pascal Lossou, je vous retrouve lundi pour un nouveau numéro de l'émission Club de la Presse. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.
Cette émission vous a été offerte par la bière Weichsteiner, aussi nommée Sikavi, une bière internationale d'origine allemande depuis 1753. Distribué au Togo par la SNB. Weichsteiner, la vie dorée.